La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudy Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Espère, comme l'a vu Maudy Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduque Action.
Fidèles auditeurs, auditrices, chers amis de la web radio Éduque Action, bonjour. Merci de prendre aujourd'hui le rendez-vous hebdomadaire de votre émission Chronique en débat. Chronique en débat qui est une émission inspirée de la réflexion du chroniqueur Maudy Johnson. Aujourd'hui, la réflexion du philosophe et planificateur de l'éducation Maudy Johnson fait un état des lieux sur l'apprentissage des sciences physiques et mathématiques au Bénin. Elle met aussi un point d'honneur sur les difficultés liées aux opportunités qui se présentent à ceux qui étudient ces sciences. Pour comprendre davantage de quoi il est question, suivez la lecture de la chronique faite par Rodrigue Arotondi.
Mission impossible. Enfin, je suis dans cet Occident qui nous fait tant rêver. Je n'ai pas eu le redoutable privilège d'y être jeté par la mer. J'y ai débarqué avec l'arme qui intéresse l'Occident. Et inspire le respect, l'intelligence. Je brille plutôt, surtout en mathématiques. Ma licence au pays offrait un seul débouché, terminer le master, devenir un obscur prof. Mais il y avait bien mieux à faire ici-bas. Mon pays n'y songeait guère et n'était pas aidé par la caste des enseignants, des facultés avec leur mandarinat pur et dur. Leur sadisme sans nom décourageait la grande majorité des élèves. Même moi, qui me retrouve aujourd'hui dans un pays où les cours me semblent adorables et les enseignants disponibles, j'avais failli abandonner les deux premières semaines. Les professeurs faisaient tout pour nous écœurer. Le premier prenait une craie, commençait à écrire et après, chaque deuxième ligne effaçait la première sous prétexte de révision. Le deuxième décida de parler très bas et se retourna brutalement pour identifier ceux qui, à l'évidence, étaient indignes du cours. Ils n'avaient rien noté. Ils le regardaient sans rien faire, ou pire, ils avaient osé demander d'élever la voix. Un troisième vint nous poser des questions apparemment anodines. Quelle moyenne avions-nous eu en maths au bac? Il était fortement surpris quand la note ne dépassait pas 16 sur 20. Il répétait alors, « Quelle pitié! Nous étions au départ 300 élèves. Après deux semaines, il en restait le tiers. Sur cette centaine, le quart à peine a été en licence ou un autre professeur qui donnait le même sujet à l'examen depuis des lustres a décidé de gratifier la majorité de la note éliminatoire de 1 sur 20 afin qu'il puisse reprendre l'année. Au vu et au su de toute la communauté universitaire qui ne fit rien. Oui, c'était cela la série maths et physique dans l'université principale de mon pays. Même l'État laissait des êtres quasi inhumains dégoûter tout un pays de la science des sciences. Je me résolus à partir, mon pays m'offrant l'enseignement comme seule porte de sortie. Quelle aberration au regard de ce qu'un étudiant en sciences pouvait faire. Je tentai des bourses occidentales et réussis à ma grande surprise. Je partis avec autant de regrets que d'excitation, car tout en étant sûr de réussir ailleurs, j'appréhendais un aller sans retour. Dans la nouvelle contrée universitaire, je fus reçu avec égard. Je me sentis à l'aise dans un environnement savant, ouvert, cordial. La première année passa vite, tant j'avais soif d'apprendre. Puis, je me retrouvai, excellent étudiant, dans un dilemme face aux multiples sollicitations et bourses de 3 ou 4 pays différents. Que choisir? Alors que j'allais quitter cette première université et ce premier pays, une délicieuse demoiselle traversa toute l'université pour me demander de l'aider à résoudre une équation. On lui avait parlé de moi. Elle voulait des cours particuliers. Devrais-je partir bientôt? Elle me supplia de rester car que serait sa vie sans moi et mes cours de maths? Je ne compris rien, mais elle s'appelait Ève. Et qui suis-je pour lui résister là où mon illustre ancêtre Adam avait cédé? Vous avez compris, je restai. Après un master vite expédié, j'entamai le doctorat tandis qu'une nouvelle nationalité se profilait. Tout venait facilement. Bourses diverses, femmes, enseignant attentionné, je compris que cette considération venait d'un pouvoir sur lequel on capitalisait pour l'avenir de mon nouveau pays, mon intelligence. Le hasard me fit rencontrer en plein hiver des Africains qui parlaient ma langue, regrettant le soleil du pays. On se mit à échanger, ils m'invitèrent pour une réunion le lendemain. J'y courus pour me distraire. L'ambiance était à la nostalgie du pays et à la gaieté de se retrouver autour de mai de chez nous. Un seul thème nous unissait, accepter la mission civilisatrice d'un pays qui comptait sur nous, à terme, ou retourner servir un pays où nous n'étions même pas désirés. Je voyais devant moi des personnes plus qu'intelligentes, avec des diplômes hors normes, qui étaient prisonniers d'un système et ne savaient pas quoi choisir. Une femme, orange pleine, comme nos Amazones, qui avait animé la conversation, vint me tendre en souriant un plat d'ablo et de akpese. À la première mouchée, je fus transporté dans mon pays, plein de soleil et de vie simple. À travers les champs de mon père et la cuisine de ma mère, je décidai de repartir, servir ma patrie. Les coups de téléphone de la guerrière, notamment, achevèrent de me replonger dans le mal du pays. Je ramassai mes économies et, avec un doctorat terminé, dans un domaine de pointe très demandé, décidai de partir. Je trouverai affaire sur place, même si l'État ne s'intéressait pas à moi, ni aux autres têtes bien faites. Par un curieux hasard, la guerrière voulait aussi partir et nous avions décidé de prendre le même vol. Mais un petit grain de sable, ou plutôt une goutte bienheureuse ou malencontreuse, fit son effet. Ève, mon Ève, qui était d'ailleurs la fille d'un de mes professeurs, m'annonça « Je suis enceinte ».
Merci à Rodrigue Arotondi qui a prêté sa voix au chroniqueur Maudi Johnson pour nous livrer la quintessence de sa réflexion du jour. Vous l'avez si bien compris, aujourd'hui, de long en large, nous allons parler des sciences physiques et mathématiques, des conditions d'apprentissage en passant par les bourses octroyées aux étudiants de ces filières pour étudier à l'extérieur, aux opportunités qui se présentent à eux à la fin de leur formation. Plusieurs experts, de près comme de loin, vont se prononcer tout au long de cette émission. Et quand nous parlons d'experts, nous avons un invité de poigne dans ce studio pour nous tenir compagnie et éclairer notre lanterne sur un maximum de choses. Lui pour qui les sciences mathématiques n'ont plus ou non plus presque de secret. Il s'agit du professeur Joël Tossa, actuel coordonnateur du Centre d'excellence en sciences mathématiques, informatiques et applications à l'Institut de mathématiques de sciences physiques. Il est aussi le directeur de l'école doctorale des sciences exactes et appliquées. Et je rappelle qu'il est aussi ancien directeur de l'Institut de mathématiques de sciences physiques. Bonjour professeur.
Bonjour madame.
Vous nous faites un immense honneur en acceptant notre invitation malgré votre agenda très chargé. Je précise que vous avez quitté Porte Nouveau ce matin.
C'est exact madame.
Alors avec vous professeur, nous allons parler des sciences mathématiques et physiques. Moi j'aimerais bien d'ores et déjà vous demander comment se portent les sciences mathématiques et physiques au Bénin.
Merci madame. Je vais dire que les sciences mathématiques se portent relativement bien. Il en est de même pour les sciences physiques. Je dis relativement bien parce que les mathématiques ont toujours été, on va dire, la bête noire des élèves. Ce n'est pas propre qu'au Bénin, c'est partout dans le monde. Mais aujourd'hui, je peux dire que déjà pour l'enseignement primaire ou l'enseignement secondaire, des efforts sont faits pour que les apprenants se retrouvent dans l'apprentissage de cette discipline.
Merci, professeur. Dites-nous, c'est quoi exactement les sciences physiques et mathématiques ?
Bon, on va dire que physique, c'est, on peut les prendre d'abord comme des disciplines qui sont enseignées dans nos entités, dans nos écoles. La physique est un côté des mathématiques. La physique utilise les formules de mathématiques pour résoudre des problèmes qui sont concrets, qui sont dans nos jours de tous les jours. Mais les mathématiques sont peut-être un peu plus théoriques. Je considère pour ma part que les mathématiques contribuent à la formation à l'esprit. Et ça, c'est quand même important, c'est-à-dire qu'en faisant abstraction des choses, on enseigne des maths pour que l'apprenant soit capable de résoudre plusieurs problèmes, parce que c'est ça qu'on dit, et en mathématiques, on dit que c'est la résolution des problèmes. L'apprenant résout des problèmes, mais en même temps, il a un esprit éveillé et comprend rapidement si les situations ont changé, il peut en même temps s'adapter, etc. Donc c'est vraiment la formation de l'esprit au départ.
D'accord. La chronique de Mardi Johnson, vous l'avez suivie avec nous tout à l'heure, elle peint le vécu d'un étudiant en sciences mathématiques et physiques et met en exergue les difficultés rencontrées par ce dernier. Que vous inspire cette chronique de Mardi Johnson?
Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention. Ça m'a retourné un peu dans les années 80, parce que oui, c'est vrai, c'était quand même un peu difficile de faire la faculté des sciences à cette époque-là. Il faut dire que, quoi qu'on dise, le professeur de mathématiques à l'université, lorsqu'il a une salle où il y a 300 apprenants, c'est difficile de gérer au cas par cas. Et c'est ça, en fait, la grosse difficulté. En ces années-là, il y avait quand même des groupes de TD. Ça veut dire que c'est des salles de 20 à 30 étudiants. Et dans ce cas, dans les groupes de TD, les professeurs de TD expliquaient peut-être davantage, permettaient que l'étudiant puisse mieux comprendre ce qu'il n'avait pas compris dans le cours. En ce moment, c'était difficile, mais ça marchait, à mon avis. C'est aujourd'hui un peu plus difficile parce que nous avons peut-être 800 étudiants en MP1, en première année de maths physique. Et puis, il y a plus de salles pour faire des groupes de 20, vous voyez, parce qu'on n'a pas 40 salles pour faire des groupes de 20. Et donc, du coup, les travaux dirigés peuvent être faits en même temps dans la salle avec les 800. Ça veut dire que le professeur ne peut pas régler au cas par cas, il ne peut pas identifier l'apprenant qui souffre, l'aider, etc. Donc, ça, c'est la grosse difficulté. Je crois que c'est un vrai problème, c'est pas pour au Bénin simplement, c'est partout dans nos pays francophones. C'est une vraie difficulté. Donc, je comprends très bien la chronique et ce n'est pas très faux, c'est exact.
D'accord, merci à vous. Bien avant de poursuivre dans ces échanges, nous allons, avec la complicité de la régie, suivre ce témoignage d'un ancien étudiant du Bénin en sciences physiques et mathématiques, Ilanon Oscar. Suivons-le.
Je suis étudiant en mathématiques appliquées et plus précisément en data science. En parallèle, je travaille en tant que junior data scientist dans une entreprise d'assurance. De base, j'ai eu baccalauréat scientifique, baccalauréat série C, spécialité mathématiques physiques au Bénin. Après avoir obtenu ce dernier, je suis rentré dans un cursus de mathématiques. Pourquoi ? Parce que de base, j'appréciais déjà tout ce qui se passait par rapport aux mathématiques, à l'applicabilité des mathématiques, des physiques, quand j'étais en classe de terminale. Parce que j'utilisais un document qu'on appelait Tomasino, et vraiment les expérimentations, tout ça m'époustouflait. Et donc, mon désir le plus ardent était de continuer mes études, mais ingénierie aéronautique précisément. J'avais pas la possibilité de le faire au Bénin. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ça serait difficile pour moi d'ailleurs de venir à bout de ce désir-là. Alors, c'était vrai que je pouvais passer par l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, faire une filière qu'on appelait ingénierie mécanique pour finaliser par une spécialisation vers l'aéronautique. Mais je peux vous dire, ça serait une désolation pour moi, puisque même dans cette école qu'on peut qualifier de prestigieuse au Bénin, les instruments, tout est vétuste. C'est des instruments de l'époque coloniale que des professeurs ont utilisés pour leur formation qui sont là et qui sont réutilisés encore pour les étudiants actuels. Et je peux vous dire que c'est une désolation pour moi, des copains qui ont fait cette formation-là. Parce que beaucoup ont fini finalement dans quoi ? En tant que professeur de physique dans les écoles. Une petite anecdote pour moi est pour mon premier coup en tant qu'étudiant en sciences, précisément en mathématiques, j'ai été accueilli dans une mer humaine de plus de 1000 étudiants dans un amphithéâtre censé contenir 400. Donc vous imaginez déjà le désastre qui commence par là. Donc voilà, on vient de quitter les bancs du collège et puis on rejoint l'université et c'est ça qu'on rencontre à première vue. Donc là naît déjà les difficultés. De ces effectifs pléthoriques naît des problèmes de forme et de fond. Un exemple très simple. On faisait des cours de mathématiques, bien sûr, hein, en une semaine. Des cours qui sont censés être déroulés sous tout un semestre, hein, ou bien plus de 2 ou 3 mois, on le fait condenser, combiner en une semaine. Donc vous imaginez déjà comment l'étudiant va pouvoir comprendre tout ça correctement et vraiment donner le meilleur de lui-même. Et c'est pas un seul coup, il y a plusieurs coups, il y a qui s'enchaînent. Donc on est vraiment, comme on le dit en anglais, thrown in a deep end. C'est-à-dire on est jeté dans plein de choses à la fois, et puis on ne sait même plus là où mettre les pieds. Comme anecdote que je peux citer dans cette logique, moi quand j'ai commencé mon cursus, heureusement j'ai fait classe avec le premier du Bénin du baccalauréat de l'époque. Je vous dis pas qu'on a composé nos premiers semestres. Elle n'a rien validé. C'était une dame. Elle n'a rien validé. Moi, au moins, j'avais validé 3 matières, je crois. Sur 12 matières, quelque chose comme ça, j'avais validé 3 matières. Elle avait validé rien. Elle était déçue, en fait. Heureusement pour elle, il y a eu la possibilité, elle a eu la possibilité de partir plus tard. Donc, vous voyez, ces situations découragent les étudiants qui, de base, sont excités à faire la formation de mathématiques.
Professeur, un témoignage de Oscar qui a fait les sciences mathématiques au Bénin. Il parle dans un premier temps des conditions d'apprentissage. Un jeu de mots assez fort qu'il fait, il parle d'une mer humaine. Un amphithéâtre censé garder 400 étudiants qui en arrivent à garder plus de 1000. Et tout à l'heure, dans votre intervention, vous l'avez si bien dit, aujourd'hui c'est encore beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amphi et il faut que les étudiants, déjà en MP1, il y a suffisamment d'étudiants. Mais dites-nous, est-ce que cette condition d'apprentissage permet réellement aux étudiants de bien suivre les cours?
Oui, madame, je dirais non. On ne peut pas bien suivre les cours, surtout des cours de mathématiques dans ces conditions. Parce que quand le prof écrit déjà au tableau et que vous êtes au fond de la salle, peut-être que vous ne parvenez même pas à lire ce qu'il écrit. Donc il y a quand même un problème. Mais je dirais que des efforts sont faits de plus en plus pour encourager ceux qui veulent faire des mathématiques. Par le passé, par exemple, les étudiants qui allaient en MP en faculté n'avaient pas de bourse. C'est déjà corrigé. Certains qui ont une bonne note au baccalauréat peuvent avoir de bourse tout en étant étudiant à la faculté. De plus, il y a aujourd'hui plusieurs filières qui se créent. Il n'y avait pas, par exemple, l'Institut d'informatique. Aujourd'hui, on a un Institut national de formation et de recherche en informatique, IFRI, qui prend des bacheliers directement. Vous voyez, donc, les choses s'améliorent. Les gens, quelqu'un qui a un bac C et qui veut faire informatique, oui, il y a où il peut aller. Ça n'existait pas par le passé. Donc, les choses sont en train de s'améliorer. Il faut continuer. Vous voyez, on a inauguré des amphi 1000 ou amphi 2000. Bon, ça ne sert à rien. De rassembler autant de gens dans une salle pour donner un coup, parce qu'il y a un seul professeur. Peut-être que le micro ne marche pas le jour, là, c'est ceux qui sont devant qui vont entendre, etc. Voyez. Donc, il faut travailler à améliorer les conditions de travail, c'est très important.
Merci à vous. Alors, conditions d'apprentissage, on en parle toujours, mais cette fois-ci, vétusté des matériels. Des matériels, dit-il, de l'époque coloniale, entre griffes, qui sont utilisés pour dispenser les cours. Êtes-vous du même avis?
Oui, ça, on ne peut pas dire non, parce que c'est vérifiable. Si je dis non, c'est faux, vous avez la possibilité d'aller sur le campus, voir les salles de TP, vous allez dire, ah, il a menti. Donc, c'est bien vérifiable. Il y a de grands efforts à faire sur ça. Mais ce qu'on devrait faire aussi, et qu'on ne fait peut-être pas suffisamment, c'est trouver nous-mêmes comment on fait nos matériels de TP à partir de nos propres ressources. Et ça, bon, c'est... On a un inspecteur de physique, j'ai oublié son nom, qui a tout un petit labo pour fabriquer du matériel, pour faire des TP dans les collèges, etc. Bon, donc, c'est des choses vers lesquelles on devrait aller. C'est vrai que c'est les matériels, il faut changer, c'est important.
Ok, ce n'est pas fini. Écoutons un autre extrait de son témoignage, toujours avec la complicité de la régie.
Alors, un autre problème assez énormissime qui gangrène en réalité l'éducation, en sciences particulièrement, c'est le problème de la communication entre les professeurs et puis les apprenants. Ne pas avoir l'aisance pour communiquer avec son enseignant ne facilite pas la tâche pour un jeune étudiant qui vient rentrer à l'université et qui veut, qui est bien excité à apprendre, à comprendre les choses. Je peux vous dire qu'il y a des compositions qu'on fait. On vous donne une épreuve, c'est bien dense, on vous fait composer. Pratiquement personne à la moyenne. On vous ramène encore la même chose. Vous composez, à peine une ou deux personnes s'en sortent, sur près de 400, près de 500 étudiants. Vous imaginez que ça, c'est un vrai désastre. Il y a donc un mythe de supériorité énormissime entre l'étudiant et puis le professeur. Ce qui facilite aucunement pas l'apprentissage. À ça, maintenant, ça ajoute des problèmes de fond. Vous imaginez que pratiquement tous ceux qui s'engagent dans une formation en licence de mathématiques se disent déjà, bon, voilà quoi, c'est pour devenir enseignant. Tout, pratiquement, 80-90% sont calibrés dans ce sens. Or, ça ne devait pas être le cas. Les entreprises aujourd'hui, toute entreprise aujourd'hui a besoin des scientifiques, des mathématiciens, et puis j'en passe. Donc, vous voyez alors que c'est une aberration qu'un étudiant qui fait des études en mathématiques se disent, ben bon voilà, celui-ci c'est l'enseignement, même s'il n'est pas destiné à ça. Et donc, ça crée un problème. Ça façonne des professeurs, enfin des élèves professeurs dans les collèges qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas forcément l'habileté pour faire ce travail. Et vous voyez, de façon rétrograde, ça impacte ceux qui sont en arrière. Revenons sur ce problème de fond. Hein. Les cours que nous avons ne sont pas vraiment réadaptés d'année en année. Vous avez des cours qui existent depuis longtemps, et puis bon, voilà, on trimballe le même, sans revoir les choses. Même dans la filière, il n'y a pas de changement sur les matières, il n'y a pas l'adaptabilité de la vie universitaire à la vie professionnelle. Alors, vous avez malheureusement des programmes hein, des années 1900 hein, qui continuent toujours jusqu'à présent. Le grand problème de la faculté de sciences, c'est de ne pas avoir des formations qui sont vraiment, vraiment calibrées par rapport à des domaines précis. Par exemple, la filière de mathématiques, elle est faite simplement pour continuer et devenir docteur en mathématiques. Il n'y a pas de tremplin pour quelqu'un qui fait les mathématiques à Abomey-Calavi de pouvoir se dire, bon voilà quoi, je peux faire maintenant les mathématiques appliquées à tel domaine, je peux aller vers la médecine, tout en étant mathématicien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de mathématiques calibrées vers l'entreprise. Attends, déjà, on a besoin des mathématiciens en entreprise. Mais vous avez le diplôme de mathématiques, mais vous ne pouvez pas entrer en entreprise. Simplement parce qu'il n'y a rien qui vous lie par rapport à votre formation à l'entreprise. Rien. Aucun savoir-faire lié à l'entreprise.
Professeur, Oscar parle des cours non adaptés, des cours qui datent des années 1900, qui ne sont pas calibrés pour répondre aux besoins de la vie professionnelle. Qui plus, souligne-t-il, des matières censées être enseignées sur une longue période, c'est-à-dire 2 semaines, sont liquidées en 1 semaine. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Bon, je suis un peu réservé par rapport à cette partie du témoignage parce que, vous voyez, on ne peut pas dire qu'on enseigne des mathématiques de 1900 aujourd'hui, mais en même temps, on ne peut pas enseigner les mathématiques de 2000 à l'université parce que les mathématiques d'aujourd'hui sont des résultats de recherche en cours, etc. Il faut bien donner une base à l'étudiant pour qu'il puisse avancer. Et je crois que c'est ça qui est fait chez nous. Il y a sûrement des problèmes par rapport à... Je suis d'accord sur certains points, mais quand je prends le département de mathématiques, son rôle, c'est d'abord faire apprendre des mathématiques aux étudiants.
Donc, inculquer la base.
La base des mathématiques aux étudiants. Donc, après ça, l'étudiant peut, comme lui l'a dit d'ailleurs,
selon ses ambitions,
l'étudiant peut s'orienter parce que ses parents peuvent l'envoyer au Canada ou parce qu'il a une bourse pour aller continuer dans telle chose. Vous voyez, donc, le rôle qu'on doit essayer de maintenir, c'est apprendre les mathématiques, faire apprendre les mathématiques aux jeunes et ensuite, chacun verra vers quoi il va. Aujourd'hui, il a parlé de data science, la science des données. Oui, il n'y avait pas ça du tout au Bénin. Aujourd'hui, à l'Institut de mathématiques à Dangbo, il y a une option data science. Cybersécurité, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, les étudiants sont en cybersécurité. Vous voyez donc les choses...
Comme sont progressivement dis,
les
efforts.
Les choses avancent.
Oui.
J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que je coordonnais un centre d'excellence en sciences mathématiques.
Bien sûr.
Dans le programme, c'est un programme qui est financé par la Banque mondiale.
Mm-hmm.
Et c'est assez clair à l'intérieur du programme, les étudiants doivent faire des stage d'au moins 1 mois en entreprise. Ça veut dire qu'un étudiant en mathématiques qui est dans ce programme-là doit aller faire un stage d'1 mois dans une entreprise et apporter son intelligence à ce qui se fait dans l'entreprise. Donc, il y a vraiment des changements, comme il dit. Nous, on avance, c'est pas encore à l'échelle. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle recherche-développement. Oui, quand vous avez fait un doctorat en mathématiques, vous pouvez travailler dans une grande société, mais dans la section recherche et développement.
D'accord.
Il faut déjà trouver chez nous quelle est la structure. Quelle est l'entreprise qui a une section recherche et développement? Il n'y en a pas. Donc, c'est ça le vrai problème. Du coup, ces entreprises-là vont utiliser des solutions prédéfinies, des logiciels préétablis pour résoudre des problèmes quand ils en ont. Mais ce n'est pas qu'ils ont une section où il y a des chercheurs qui apportent des réponses aux questions qu'ils se posent. Vous voyez? Donc, on va avancer. Ça ne peut pas se faire
du jour au lendemain.
Il y a une option mathématique de la décision qu'on a aussi essayé de faire à Dango. C'est utiliser les mathématiques comme outil d'aide à la décision. Et donc, les coûts qui sont sont données, c'est, comment on va dire, problem solving, comment je résous un problème pour une société, pour une structure, etc. Bon, donc il y a comme ça des options qui se créent, toujours pour aller vers le sens d'appliquer les mathématiques. Mais le tableau n'est pas aussi noir que ça a été dépeint.
Effectivement, oui. D'accord. Alors, Maudie Johnson, dans sa chronique, parle de ces professeurs quasi inhumains qui font perdre aux étudiants leur engouement pour les sciences. Je cite, « Un troisième vient nous poser des questions apparemment anodines. Quelle moyenne avions-nous eu en maths au bac ? Il était fortement surpris quand la note ne dépassait pas 16 sur 20. Il répétait alors, quelle pitié ! Plus loin, Maudie Johnson poursuit en écrivant, « Même l'État laissait des êtres quasi inhumains dégoûter tout un pays de la science des sciences. » Oscar, pour sa part, évoque l'absence de communication entre l'enseignant et son étudiant. Il s'exprime en termes de mythe de supériorité entre l'élève et son professeur. Soutenez-vous ces affirmations ? Concevez-vous le fait que certains étudiants perdent leur engouement pour les sciences mathématiques et physiques à cause de quelques professeurs parce que ces derniers auront réussi à leur faire voir tout le côté obscur de la chose, qu'un enseignant voit d'un œil piteux le fait de ne pas avoir la note de 16 au bac dans les filières scientifiques? Qu'avez-vous à dire à propos?
Oui, c'est difficile quand j'écoute ça. Oui, c'est vrai que, comme dans toutes les disciplines, il y a des enseignants qui peut-être, je sais pas, ne sont pas ouverts. C'est bien possible, ça existe. Et bon, je considère que c'est des cas rares qui sont dans nos rangs et le travail doit être fait pour améliorer ça. Ben, vous voyez, quand vous avez 800 étudiants devant vous, vous n'êtes pas mentalement prêt non plus à discuter avec eux quand vous sortez du cours. Parce que s'ils sont 300 ou, je sais pas, même déjà 10 autour de vous à vous poser des questions, alors que peut-être vous n'avez même pas un bureau où vous allez vous asseoir. Vous comprenez? Donc, il y a quand même une difficulté. Il y a un problème lié aux conditions de travail. C'est vrai, les gens, les profs qui mettent néant, ça a existé, mais je crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Ce n'est plus d'actualité.
Je crois que c'est plus d'actualité. Les profs sont peut-être plus jeunes aujourd'hui et sont plus ouverts avec les étudiants. En mathématiques, le cas où je connais, même en physique, je vois qu'on a plus d'enseignants qui cherchent visiblement à terroriser les étudiants. Je crois que ça, c'est fini aujourd'hui.
D'accord, merci professeur. Parlons des bourses et opportunités. L'État béninois, nous le savons, gratifie nombre d'étudiants pour leur excellence. À cet effet, une certaine catégorie de bourses est octroyée pour des raisons bien précise. Vous avez abordé un petit aspect de la chose dans votre intervention tout à l'heure. Et donc, nous allons prendre connaissance de ces bourses qu'offre l'État béninois. Et les éléments de réponse, c'est avec Martin Augoussan, directeur de la direction des bourses et aides universitaires.
Nous avons plusieurs catégories d'allocations universitaires. Parce que, en fait, quand on dit allocation universitaire, on y retrouve la bourse, c'est une forme d'allocation, et l'aide. La bourse, c'est une subsistance que l'État verse aux bénéficiaires de l'étudiant chaque mois. Alors que l'aide, c'est un versement unique que l'État fait annuellement aux bénéficiaires de ce type d'allocation. Alors maintenant, quand on rentre dans les bourses, nous avons plusieurs catégories de bourses. Il y a la bourse nationale pour des études universitaires au Bénin. C'est le chapitre 1 du décret 2017-155 qui organise en fait les conditions d'accès à cette bourse. Plus précisément, l'article 6 qui définit bourse pour les études universitaires au Bénin. Ensuite, nous avons la bourse nationale pour des études dans les écoles inter-États. Le Bénin a contribué à la mise en place d'un certain nombre d'écoles régionales. Je veux parler de l'école régionale d'architecture qui est à Lomé. Je veux parler de l'école supérieure de télécommunication qui est à Dakar. Il y a l'école de la statistique, l'école régionale de la statistique répartie dans plusieurs pays, Côte d'Ivoire, Dakar, puis le Cameroun. Ce sont des écoles inter-États. Et donc, le Bénin est membre fondateur de ces écoles, évidemment en contribuant à la création de ces écoles. Ces écoles offrent des places chaque année aux États membres, comme le Bénin. Donc, c'est la deuxième catégorie des bourses. C'est des bourses nationales pour les études dans les écoles inter-États. La troisième catégorie sont les bourses nationales d'excellence. Mais quand on prend également cette catégorie, les bourses nationales d'excellence, nous avons deux sous-catégories. Il y a le bourse national d'excellence pour des études universitaires au Bénin. Donc, vous pouvez un boursier d'excellence et étudier au Bénin. Ou le bourse national d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin. Donc, quand on prend les bourses d'excellence, il y a deux catégories. Il y a celle qui vous permet d'étudier au Bénin et les bourses d'excellence qui vous permettent d'étudier hors du Bénin. Il y a une catégorie qu'on appelle les bourses nationales pour enfants de diplomates. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui sont déployés dans d'autres pays pour représenter le Bénin. Évidemment, compte tenu des tâches spécifiques qui leur sont dévolues, il y a une disposition carrément qui leur est consacrée, qui est la bourse nationale pour enfants de diplomates. C'est l'article 17 du décret dont j'ai parlé tout à l'heure qui organise tout cela. Ensuite, nous avons la cinquième catégorie de bourses sont les bourses de coopération. Donc, les bourses de coopération, là également, il y a les bourses de coopération offertes au Bénin. C'est-à-dire, c'est des pays amis qui offrent ces bourses au Bénin, soit pour les diplômes de licence ou des formations post-licence ou même pour le doctorat. Et il y a des offres de bourses nationales aux pays amis. C'est-à-dire que le Bénin aussi peut offrir des bourses de coopération à d'autres pays. De la même façon, les pays amis nous offrent, nous nous sommes pas en offrir. Et tout récemment, avec la situation qui a eu lieu en Haïti, le Bénin avait offert des bourses aux Haïtiens pour qu'ils viennent étudier. Donc, la réciprocité dans ce domaine également qui est prouvée. Voilà dans les cinq catégories de bourses prévues, je le dirais, par le décret 2017-155.
Nous venons de prendre connaissance des différentes bourses octroyées par l'État béninois. Celle qui nous intéresse ici, évidemment, c'est la Bourse nationale d'excellence pour les études universitaires hors du Bénin. Cette bourse est accordée aux étudiants les plus méritants pour poursuivre leurs études à l'extérieur dans des formations définies comme prioritaires et non disponibles au Bénin. Précision avec Martin Augusson, directeur de la direction des bourses et aides universitaires.
Je vais d'abord rappeler les dispositions qui organisent ce type de bourse. C'est l'article 16 du décret 2017-155 qui parle des bourses nationales d'excellence pour des études universitaires hors du Bénin. Alors, cette catégorie de bourse est accordée sous forme de prêt remboursable à la fin de la formation pour des formations non disponibles au Bénin, aux bacheliers les plus méritants remplissant les critères suivants. Donc, il y a des critères qui sont bien définis. Donc, les bourses d'excellence sont forme de prêt. C'est l'article 16 qui le dit. Et pour bénéficier de cette bourse, il faut être au classement national parmi les 10 premiers au baccalauréat des séries scientifiques de l'année en cours avec la mention très bien. Donc, le premier critère, c'est qu'il faut être classé parmi les 10 premiers des séries scientifiques. Il faut être âgé de 20 ans au plus au 31 décembre de l'année d'obtention du baccalauréat. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, il faut être inscrit dans une formation définie comme prioritaire par le gouvernement et qui n'existe pas dans l'un des établissements de l'enseignement supérieur à l'intérieur du pays. Ça veut dire que si vous êtes boursier des uns, que la formation que vous voulez faire existe au Bénin ou vous restez au Bénin et on va vous donner la subvention conséquente. Mais si la formation n'existe dans aucune université béninoise, c'est en ce moment qu'on vous autorise à rechercher l'université à l'extérieur. Troisième critère, il faut suivre effectivement les activités académiques dans la filière retenue. Ce n'est pas systématique. Dès lors que vous avez le bac, si vous ne vous inscrivez pas, l'État ne peut pas vous accorder la bourse. Parce que c'est une bourse pour étudier. Donc, c'est pourquoi le premier critère à remplir pour bénéficier de la bourse, il faut s'inscrire d'abord dans une université. Donc, il faut obtenir une inscription et s'inscrire. Sans ça, on ne peut pas vous payer une bourse au Bénin. Le quatrième critère, avoir déposé à la direction des bourses et aides universitaires un dossier de demande de bourse dans le délai requis. Le dernier critère, un critère très important, c'est s'engager par acte notarié à suivre la formation définie comme prioritaire par le gouvernement dans l'État retenu et à revenir servir le sien à la fin de sa formation ou à rembourser le montant total de la bourse, quel que soit le pays de résidence. Donc, lorsque vous refusez de rentrer ou de vous rendre disponible, lorsque l'État va vous faire appel, vous avez l'obligation de rembourser. Si vous n'êtes pas disponible pour servir après votre formation d'État. Et c'est d'ailleurs pourquoi les anciennes dispositions avant 2017, il n'y avait pas les dispositions qui obligeaient l'étudiant à prendre un engagement notarié. Donc c'est un acte juridique fort qui permet de mener des actions recursoires contre le fonds de fonds.
Professeur Tossa, l'article 4 de la loi numéro 2020-36 du 14 janvier 2021 portant insertion et réinsertion professionnelle des allocataires de bourses et de stages en République du Bénin stipule, je cite, « Tout allocataire de bourse octroyé par l'État se met obligatoirement à la disposition de celui-ci dès la fin de la dernière année de formation. » Le directeur de la DBAU a souligné tout à l'heure cet aspect de la chose. Pourquoi un tel encadrement de l'État selon vous?
Je pense que c'est légitime puisque c'est l'État qui finance la formation. Bon, l'État ne peut pas financer sur plusieurs années et en même temps dire vous devez rester ou aller là où vous voulez. Je crois que c'est tout à fait légitime. Ce qu'il faut craindre, c'est qu'après la formation, que l'État ne recrute pas l'intéressé. Ça, c'est ça qu'il faut éviter d'avoir, parce que si on rentre dans ces cas-là, ben, je crois que les gens vont choisir de partir et de rembourser s'ils le peuvent, parce que c'est tout à fait juste. Il y a quelque chose qu'il faut déplorer. Avant ces tests, Le Bénin donnait systématiquement la bourse à tous ceux qui ont une bonne mention au bac. Ça s'appelait bourse d'excellence. Ils sont allés majoritairement au Canada, certains en France. Pour ceux qui ont réussi, et ils sont nombreux, ils ne sont pas revenus au Bénin. Mm-hmm. Ils ne sont pas revenus au Bénin. Et nous, on a suggéré et on l'a obtenu, on a créé des classes préparatoires à l'Institut de mathématiques à Dango, parce qu'on se dit qu'un jeune bachelier qui est très brillant, il a bac ses mentions très bien, s'il va à la faculté, il y a 800 étudiants, il va se perdre dans la masse, il vaut mieux qu'on regroupe ceux-là dans un cadre approprié pour qu'ils travaillent. Et donc, ça marche aujourd'hui assez bien.
D'accord.
Les étudiants qui ont une bonne mention choisissent de venir faire les classes préparatoires à Dango, où ils reçoivent une très bonne formation. D'accord. Parce qu'après la deuxième année, ils peuvent passer des concours et aller dans les grandes écoles.
D'accord.
On en a eu, il y a au moins un qui est admis à l'École Polytechnique de Paris. C'est extrêmement rare, même les Français ne sont pas candidats pour aller à l'École Polytechnique. Donc on a un qui est allé, et puis il y en a plusieurs qui sont allés dans de grandes écoles en France ou ailleurs, vous voyez. Donc je pense que c'est une idée qu'il faut encourager, parce que le jeune garçon a peut-être à 16 ans, il a mention très bien. Mm-hmm. Est-ce qu'il ne peut pas rester d'abord au Bénin dans un cadre confortable, mm-hmm, étudier, et puis bon, quand il aura 20 ans, 21 ans, oui, il peut partir à l'extérieur. Bon, donc moi je continue de penser qu'on devrait faire en sorte de créer localement le cadre pour ces jeunes-là ici. Et quand ils seront à 20 ans, 21 ans, quand ils auront 16 ans, ils peuvent partir et faire leur choix, vous voyez. Donc je comprends que l'État ne peut pas dépenser et en même temps ouvrir pour que les gens partent. C'est mon point de vue.
D'accord. Alors, nous avons parlé tout à l'heure des formations définies comme étant prioritaires dans le domaine de la science. Parlez-nous de ces formations. Quelles sont ces formations?
Ok, prioritaires. En fait, j'ai suivi le directeur de la direction des bourses. Le prioritaire pour nous en mathématiques, je peux dire aujourd'hui que ce qui est prioritaire, puisque le gouvernement veut faire du numérique un pôle de développement pour le pays, mm-hmm. Je pense que tout ce qui est dans les big data, les cybersécurités, etc., sont aujourd'hui des formations qui sont prioritaires. Et c'est pour ça que nous avons créé un master en data science à l'Institut à Dango. Mm-hmm. Et nous avons une formation qui, même si elle n'est pas inscrite comme prioritaire, c'est la recherche opérationnelle. Parce que c'est justement là où on fait l'application des mathématiques. Les statistiques et probabilités, c'est là où on fait l'application des mathématiques. Et en fait, tout ça peut se retrouver au niveau de la gestion des données massives, les data science, puisque justement, il y a de l'informatique, il y a aussi la statistique, et il y a à la fin une prise de décision. Donc, c'est un outil d'aide à la décision.
D'accord.
Donc, c'est aller vers les parties des mathématiques qui contribuent à être des outils d'aide à la décision. Mais personnellement, je dis qu'il faut continuer à enseigner les bonnes mathématiques aussi.
Alors, oui. Donc, il y a des formations qui n'étaient pas des formations définies comme étant prioritaires, qui n'étaient pas disponibles avant, mais qui sont aujourd'hui disponibles. Oui. D'accord. Alors, nous allons suivre le dernier extrait de ce témoignage de Oscar, qui est aussi assez évocateur et qui nous plonge cette fois-ci dans l'univers des opportunités. On le suit.
La chronique de M. Johnson dépeint très largement la réalité
théorie de la vie estudiantine lorsqu'on est étudiant, et plus précisément lorsqu'on est étudiant en sciences au Bénin. Ce système n'ouvre pas des portes d'opportunité à d'autres choses. Il faut dire que, comme je l'ai martelé très précédemment, la chose la plus importante qui passe dans la tête des étudiants en sciences, c'est devenir professeur. Donc vous imaginez quelqu'un, bon voilà, il vient de rentrer à l'université, et puis dans sa tête déjà, avec la situation qu'il voit, c'est devenir professeur qui passe dans sa tête. Lorsque moi je dis aujourd'hui à certains de mes camarades que je travaille dans le monde de l'assurance, ils me posent mille et mille questions. Qu'est-ce que tu fais en assurance? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Quel est ton job? Quel est ton métier? Qu'est-ce que ça consiste à faire? Plein de questions. Les gens sont époustouflés. J'ai d'autres camarades avec qui j'étudie, qui travaillent dans le monde de la médecine, dans le monde de la finance, et tout ça dans le monde du transport, de l'énergie. Et tout ça, c'est les mathématiques que nous appliquons là-bas. Mais nos camarades avec qui on a fait classe autrefois, qui n'ont pas pu s'estiper du système et qui sont restés, alors ils se sont contentés de ce qu'ils ont eu et restés au Bénin, tout ça. Et voilà, ils sont toujours époustouflés, abasourdis lorsqu'ils entendent que nous on travaille dans telle autre chose. Vous voyez, donc le système tue en fait l'énergie débordante de base. Vous voyez, il y a aussi une petite propagande. Parce que lorsque vous regardez les prospectus que le ministère fait, et puis tout ça pour essayer d'informer les étudiants par rapport aux filières, les opportunités qu'on peut avoir après avoir fait sa filière, bon, vous vous dites que bon voilà quoi, lorsque je finis ici, bon voilà, je peux travailler en entreprise, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais désillusion à vous, lorsque vous rentrez dans le cursus, maintenant vous vous rendez compte que bon voilà quoi, tout ce qui est dit de l'autre côté, c'est juste de l'utopie. Voilà, on vous vend seulement ça, et la réalité que vous rencontrez au cours de votre parcours, voilà, vous conditionne vers l'enseignement. Et puis c'est fini. Hein, des gens se découragent et puis voilà, ils savent même plus quoi faire. Et puis c'est ça. Donc c'est un peu malheureux, mais c'est la situation que nous avons. Quelqu'un peut avoir une passion en journalisme, mais s'il n'y a pas le système adéquat ou bien l'écosystème adéquat pour l'accueillir, pour sa formation de journalisme, il ne sera jamais à l'aise. Et c'est pareil aussi pour les gens du milieu de la science. Il y a des gens, par exemple, qui veulent faire des études en sciences nucléaires. Bon, voilà, en physique nucléaire. Mais je parie qu'il n'y a pas la possibilité de le faire au Bénin. Mais si on se limite seulement à ça, à cet obstacle, on risque de ne pas aller de l'avant. Donc, abondant dans ce sens, je crois qu'il n'y a pas vraiment un environnement propice à... Pour l'instant, il n'y a pas encore un environnement totalement propice pour garder les gens sur place. À la date d'aujourd'hui, un étudiant en sciences de mathématiques, en sciences physiques, qui veut réellement réussir au Bénin, doit être celui-là qui est assez résilient, doit être celui-là assez courageux pour vraiment s'adapter en fait à toutes les situations auxquelles il fera face. Il faut aussi avoir des envies, avoir envie de quitter en fait le système, de pas vraiment se contenter simplement de ce qui est là. Et je sais que c'est l'erreur la plus fatale de beaucoup de ces étudiants de sciences et qui bon voilà finalement atterrissent dans le monde de l'enseignement ou bien atterrissent dans autre chose carrément, quelque chose qu'ils n'ont vraiment pas voulu faire à la base. Et il faut avoir de l'ambition. Et je crois que c'est l'ambition qui a fait que moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, c'est la situation dans laquelle je suis, j'accepte ça, mais je vais essayer de trouver des portes pour m'en sortir, pour aller un peu plus loin. Je ne vais pas me plaindre à tout bout de champ, parce que oui, le reste, ça dépend de nous.
Alors, tout n'est pas aussi noir, hein. Vous l'avez souligné tout à l'heure, professeur Tossa. Une fois de plus, je demande si vous êtes d'accord. Notre ex-étudiant béninois en sciences mathématiques dit que la seule opportunité qu'offre l'État béninois à ses étudiants à la fin de leur formation, eh bien, c'est celui d'être professeur. Surtout quand Maudie Johnson écrit « Je me résolus à partir, mon pays m'offrant l'enseignement comme seule porte de sortie. » Quelle aberration au regard de ce qu'un étudiant en sciences pouvait faire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec tous les efforts qui sont en train d'être faits pour améliorer la chose, que c'est la seule issue pour les étudiants en sciences mathématiques et physiques, c'est de devenir professeur?
Non, madame, j'ai apprécié la fin de son exposé. Voyez, si un étudiant au Bénin veut faire physique nucléaire, le Bénin, est-ce que le Bénin a un intérêt aujourd'hui à faire un laboratoire pour ça? Je ne suis pas sûr. Parce que c'est bien en France, parce que le Niger produit beaucoup d'uranium, le Niger peut peut-être justifier qui est l'utilité d'avoir une telle école, etc. Vous voyez, donc, je suis d'accord avec sa conclusion. C'est savoir ce qu'on veut faire, avoir l'ambition et faire le choix. Le Bénin offre une très très bonne formation en mathématiques, quoi qu'on dise. Et donc, celui qui a fait sa formation au Bénin, qui a fait une bonne formation de maths, peut s'orienter. S'il n'a que l'enseignement et que lui-même, il n'a pas d'ambition, oui, il va finir comme enseignant. S'il a d'ambition, il va faire beaucoup de choses.
Et donc, quand même, majoritairement, la seule issue pour le moment, c'est de devenir enseignant.
Oui, c'est pas dit, ça dit majoritairement. Vous voyez, il y a un vrai problème sur le terrain. Si la rentrée démarre et que les apprenants sont dans les classes et il n'y a pas de prof, on recrute, aujourd'hui on dit les AME, c'est ça, aspirant au métier
d'enseignant.
Bon, donc quelqu'un qui est à la maison qui n'a rien va aller, c'est pas qu'on l'oblige à le faire, vous comprenez, mais oui. Il y a celui qui ne veut pas enseigner et qui a fait le choix de ne pas enseigner, doit être capable, avec sa formation en maths, de chercher des issues. Le département de mathématiques a un master en actuariat parce qu'il a dit qu'il travaillait, il travaille en assurance. Mm-hmm. Ça veut dire peut-être qu'il a fait de l'actuariat, mais il faut avoir une très, très bonne base en mathématiques pour faire l'actuariat. Avant, il fallait présenter une maîtrise de maths avant d'aller dans une école d'actuariat. Vous voyez, donc, il faut qu'on soit d'accord qu'on doit donner une bonne formation de base à nos apprenants. Et puis, celui qui a de l'ambition, oui, il est capable d'aller faire autre chose. Nous avons eu des étudiants à Dangbo qui travaillent aujourd'hui, je n'ai pas gardé le nom de la banque, ils ont été recrutés sur concours et travaillent dans une banque au Cameroun.
D'accord.
Donc,
d'accord.
C'est possible. Nous avons un jeune qui a fait une thèse en statistique, mais qui passe sur des émissions sur l'ORTB pour parler de comment on peut optimiser les modèles que les ministères des Finances utilisent,
d'accord,
etc. Donc, okay. il faut avoir déjà l'ambition. Si vous êtes chez vous, vous allez finir à M.
Exactement, d'accord. Alors, un autre expert qui va intervenir tout de suite dans cette émission, c'est Laurent Ladouce, journaliste et écrivain qui, depuis Paris, opine sur cette chronique. Laurent Ladouce, bonjour.
Bonjour, chers auditeurs. Alors, peut-on apporter des réponses à l'éditorial de Maudie Johnson? Franchement, c'est difficile à mon avis. Les choix de son étudiant soulèvent plutôt des questions. Moi, j'en poserai 5. Premièrement, cet étudiant brillant déplore le manque de débouchés des formations universitaires au Bénin. Pourtant, Éducation faisait récemment le portrait d'un docteur en pharmacie béninois qui gagne correctement sa vie à Cotonou. À côté de la pharmacie, il pratique l'ébénisterie depuis longtemps et en tire aujourd'hui des revenus appréciables. Mais son principal salaire est la joie d'exceller dans deux domaines. Alors, pourquoi certains Béninois se prennent-ils en main et pas d'autres? Où se joue la différence? Deuxièmement, notre héros semble avoir vaguement voulu réussir dans la vie en privilégiant l'intelligence. S'est-il jamais interrogé sur la différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie? Si on reste flou pour réussir sa vie, peut-on sérieusement espérer réussir dans la vie? Troisièmement, ce brillant étudiant remet souvent sa vie entre les mains du sort, comme si la vie était une grande loterie. Pourquoi pas? C'est d'ailleurs la définition passive du bonheur, de bonnes choses qui vous arrivent plutôt par chance et de façon accidentelle que par une démarche volontaire. Ce monsieur comprend-il la différence entre la destinée qu'on se donne et le sort qui vous tombe dessus? Quatrièmement, en mathématiques, on étudie les statistiques et les probabilités, et la vie en comporte aussi. Mais chaque vie est d'abord une équation à plusieurs degrés, et celui qui s'y prend bien trouve la solution du problème. Pourquoi pas notre étudiant? Quelle est la partie de la vie qu'il a mal comprise? Est-ce trop tard? Cinquièmement, le philosophe Emmanuel Kant a écrit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien en toi qu'en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » Or, ce garçon semble se considérer comme un outil qui se vend au plus offrant. Que lui a-t-il donc manqué pour se prendre comme une fin en soi et montrer plus de dignité? Comment apprendre à se voir comme une fin et non comme un moyen? Voilà, espérons que Maudie Johnson répondra bientôt à ces questions. Merci beaucoup et bonne semaine.
Laurent Ladouce, merci pour ce commentaire qui nous est très précieux. Professeur, Laurent Ladouce, dans son commentaire, dit, je cite, « Le philosophe Emmanuel Kant a écrit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien en toi qu'en autrui, toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » Or, ce garçon semble avoir considéré sa propre vie comme un simple outil, comme un moyen, quelque chose qui se vend vraiment au plus offrant. Que lui a-t-il donc manqué pour se prendre comme une fin en soi et montrer plus de dignité? Comment apprendre à se voir comme une fin et non comme un moyen? A-t-il raison de s'exprimer ainsi? Pensez-vous qu'au regard des opportunités qui se présentent aux étudiants à l'extérieur, ces derniers, par patriotisme, doivent servir leur pays qui leur offre moins d'opportunités? Selon vous, ne doit-on pas vendre son potentiel au plus offrant, surtout que l'on sait qu'on en a?
Question bien difficile, madame. Je crois que on va pas, c'est difficile de reprocher à quelqu'un de partir parce qu'il a plus d'opportunités. Nous sommes tous remplis de patriotisme, on veut servir notre pays, c'est vrai. Il faut espérer qu'on aura ou qu'on a au moins le minimum pour faire ce qu'on fait et assez de courage pour avancer. Je comprends très bien le jeune qui se vante, qui dit qu'il est très brillant, etc., et que le Bénin ne lui offrait rien. Bon, il faut prendre ça avec modération. Il y a beaucoup qui, tout en étant dedans, ont pu avancer, se sont fait une très belle place au soleil, et donc tout n'est pas aussi noir que tel que c'est présenté.
Alors, selon vous, que faut-il faire pour valoriser davantage le potentiel des étudiants en sciences physiques et mathématiques au Bénin? Des efforts sont déjà en train d'être faits. Et oui, qu'est-ce qu'il faut faire davantage?
Je pense que, vous voyez, aujourd'hui, on ne fait plus de grève. Je disais à mes étudiants dans les années 90, lorsque vous faites grève parce qu'il n'y a pas de bus, faites plutôt des grèves pour qu'on achète des livres dans les bibliothèques. C'est plus sérieux que de faire grève pour bus ou de faire des grèves parce qu'au resto, le poisson qui a été servi est trop petit. Vous comprenez? Donc, oui, il y a des choses qu'on doit continuer par faire. Par exemple, pourquoi ne pas avoir une grande bibliothèque 1000 places? Ça, c'est plus important qu'un amphi 1000 places. Aujourd'hui, avec Internet, avoir des accès à des ouvrages en ligne, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire qui ne sont pas aussi chères qu'on peut le penser aujourd'hui. Donc, d'accord, on peut bien faire ça, une grande bibliothèque 1000 places où on sait maintenant que l'étudiant, on peut limiter le temps que l'étudiant passe, mais il doit avoir aussi la possibilité de se connecter en ligne, avoir accès à des ouvrages. C'est bien difficile d'apprendre les mathématiques uniquement à partir du cours qu'on vous a donné. Il faut être capable de lire, d'avoir d'autres idées, d'autres raisonnements, etc. Vous voyez? Donc, des efforts se font, ça continue, j'espère. J'espère que très rapidement,
ça ira pour le mieux.
Ça ira pour le mieux.
Merci à vous. Dernière ligne droite de cette émission. Nous avons parlé des sciences physiques et mathématiques de long en large. Que dire pour conclure, professeur?
Oh, je vais d'abord vous remercier pour cette initiative. Et je vais conclure en disant que, comme j'ai dit tout au long de l'émission, les choses ne sont pas, le tableau n'est pas aussi noir que tel qu'il est peint. Il y a des avancées. Il faut qu'on continue et qu'on encourage. Vous voyez, aujourd'hui, les filles qui ont fait le bac C ont presque systématiquement la bourse, etc. Donc, il y a des efforts, il y a déjà des changements parce qu'on veut encourager les femmes. Ceux qui ont une mention, même mention assez bien, soit ils ont une bourse ou bien ils ont un secours, d'après ce que le DBU a expliqué. Vous voyez, donc, il y a de plus en plus de choses qui sont en train d'être faites pour que ça s'améliore. J'espère que ça va s'améliorer. Je vous remercie.
Merci beaucoup à vous, professeur Joël Tossa. Je rappelle que vous êtes l'actuel coordonnateur du Centre d'excellence en sciences mathématiques, informatiques et applications. Vous êtes aussi le directeur de l'École doctorale des sciences exactes et appliquées et vous êtes l'ancien directeur de l'Institut de mathématiques de sciences physiques. Ensemble avec vous aujourd'hui, nous avions passé en revue l'état des sciences physiques et mathématiques au Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices de la web radio Éducation, d'avoir été des nôtres. C'est ici que se referme cette édition. À la présentation, Gloria Diverso des cabines techniques, Simon Aoussi, réalisation Romuald Logbo, coordination éditoriale, Ulrich Vital Arotondi. Merci et à la prochaine.
La chronique en débat, c'est l'actualité éducative avec l'éditorial de l'Esprit, comme l'a vu Maudie Johnson, analysé et commenté par Laurent Ladouce. La chronique en débat, c'est chaque semaine sur la web radio du groupe Éduc Action.